Mais là, je viens vers vous. Voilà. On a vu toute cette semaine ce thème, à savoir que nous avons un grand Dieu. On l'a abordé de deux manières, parce que c'est un sujet tellement vaste que il faudrait plus que deux, trois réunions pour aborder ce sujet-là. Mais on a vu mardi soir l'importance de ne pas limiter le Seigneur. L'apôtre Paul qui dit que Dieu est celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Et donc c'est important de ne pas le limiter par nos raisonnements, par nos conceptions, hein, et parce que Dieu est étonnant. On a vu aussi vendredi soir que dans le livre des Actes des Apôtres, les miracles, les prodiges, c'était la norme dans l'Église. Et on voit des choses extraordinaires se passer au milieu de l'Église par les mains des apôtres. Et on a vu ces choses, et on a vu que quelque part, ce n'était pas quelque chose de rare, mais c'était quelque chose qui était la norme. Vous voyez, ils voyaient des prodiges, ils voyaient des miracles. Hein, et tout ça pour dire que quelque part, ce n'est pas quelque chose qui simplement était pour hier, mais c'est encore pour nous aujourd'hui. Parce qu'on a encore un Dieu aujourd'hui qui guérit. J'ai pu raconter quelques témoignages, mais vous en avez vécu aussi. On a encore aujourd'hui un Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Et ce n'est pas qu'un chant qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu de miracles, mais c'est une réalité encore pour nous aujourd'hui. Et combien c'est encourageant, enthousiasmant, emballant quand on voit Dieu agir. Alléluia. Quand on voit la main de Dieu s'étendre, quand on voit un malade guéri, quand on voit quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, quand on voit une situation où tout semblait impossible et puis Dieu est intervenu. Alléluia. Et les gens disent, les médecins disent, parfois les gens qui sont autour de la personne disent, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ou alors quand quelqu'un est appelé, il y en a dans toutes les églises, les miraculés. Il y en a ici des miraculés, je ne sais pas, mais il y en a eu peut-être, je ne sais pas, des miraculés, des gens qui normalement ne devraient pas être là. Et puis Dieu est intervenu à un moment donné. Hein. Et ça c'est beau, ça c'est glorieux. Et Dieu fait encore des choses extraordinaires. Ce matin, je voudrais aborder ce thème. Nous avons un grand Dieu, mais j'aimerais l'aborder d'une manière peut-être un petit peu différente. Et je voudrais peut-être encourager, peut-être justement ceux et celles qui passent par des moments difficiles, peut-être qui sont découragés, peut-être déboussolés par rapport à des situations qui durent ou qui perdurent. Alors si tel est le cas ce matin, ce message, il est pour vous. Pour que ça puisse vraiment vous rebooster dans la foi et dire Seigneur, c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais perdu de vue, mais je veux le réaliser ce matin. Je voudrais m'arrêter avec vous sur l'importance d'intégrer que dans toute situation que nous pouvons vivre, même les plus compliquées, même les plus difficiles, il y a toujours, et j'insiste là-dessus, il y a toujours ce qu'on voit, mais il y a aussi toujours ce qu'on ne voit pas. Et je voudrais insister là-dessus parce que souvent on est focalisé sur la situation, on est focalisé sur le problème, on est focalisé sur ce qu'on est en train de vivre et on oublie, on le sait quelque part, mais on oublie qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Et pourtant, Dieu est en train de préparer les choses, Dieu est en train, dans les coulisses, là, de faire son œuvre. J'ai mis un petit post-it dans ma Bible et vous allez m'entendre le dire ce matin. Ce qui se passe dans les coulisses est tout aussi important que ce qui se passe devant. Vous avez remarqué, je sais pas, dans un spectacle au théâtre ou choses comme ça, nous on voit ce qui se passe sur la scène. Mais il y a tout un boulot qui se passe derrière, dans les coulisses, qu'on ne voit pas, et qui est tout aussi important pour ce qui se passe devant. Voyez? Mais nous, ça nous échappe complètement. Et dans nos vies, c'est la même chose. Il y a toujours ce qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et je voudrais m'arrêter sur ça ce matin au travers de 3-4 textes que j'ai relevés où on voit cette vérité ressortir et elle ressort pour nous encourager et pour nous amener à réaliser que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant. Et même si nous, on est là, des fois, on dit, Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas pourquoi je passe par là, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais de réaliser que oui, il y a ce que je vois, il y a la réalité parce qu'on a les pieds sur terre, mais il y a aussi tout ce que je ne vois pas et que Dieu est en train de faire. Premier texte auquel j'ai pensé, rappelez-vous, c'est l'histoire d'Abraham. Quand dans le chapitre 22 de la Genèse, on va lire quelques versets, rappelez que la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. On n'aime pas trop ça, hein, quand Dieu nous met à l'épreuve. Il va lui dire quelque chose qui semble insensé. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et la Bible nous dit que Abraham il va s'exécuter. Entre l'endroit où Dieu lui dit ça et le mont Morija, il y a 3 jours de marche. Imaginez-vous ce qui s'est passé pendant 3 jours dans sa tête. Ça a dû cogiter dur. Il a dû se dire, peut-être je me suis trompé, peut-être c'est, voilà, voyez, peut-être l'envie de dire, ben non, je ne le ferai pas. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. L'envie peut-être de contester avec Dieu, de dire, ben c'est pas normal. pendant 3 jours. Et puis la Bible nous dit que, au verset 9, on va prendre le texte là, Genèse 22, verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et là, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Nous, on lit ça comme ça, là. Vous imaginez un peu ? Ce n'est pas le voisin qui met là. Hein. Déjà, même le voisin, ça serait difficile. Hein. Mais là, c'est son propre fils. Oui. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Voilà. Elle est magnifique cette histoire. Enfin, elle est magnifique pour nous, pas pour lui. Enfin, à ce moment-là, quoi, vous avez compris. Hein. Nous, on lit ça, on dit, waouh, c'est super, tout ça. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de textes d'ailleurs comme ça, on les lit, on dit c'est super. Sauf que nous, on connaît la fin de l'histoire. Hein. À ce moment-là, je doute qu'Abraham ait le sourire. Mais je voudrais m'arrêter sur un aspect là qui est quand même assez intéressant. Je l'avais brièvement évoqué il y a quelques réunions en arrière. Je vais le faire ce matin peut-être un petit peu plus. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur l'histoire du bélier là. Parce que le plus important, c'est ça dans l'affaire, ce bélier. Et j'avais dit ceci, c'est que habituellement, les béliers ne montaient jamais à cette altitude-là. Jamais. C'est pas une altitude où vous trouviez des béliers, vous les trouviez bien plus bas. Ce qui fait que quelque part, humainement parlant, ce bélier n'aurait jamais dû se trouver là. Jamais. Et on pourrait se dire, mais alors qu'est-ce qu'il faisait là? Il s'est égaré, il s'est perdu, est-ce que c'est un bélier téméraire? Vous voyez? Non, non, non. Moi, je crois tout simplement que c'est Dieu qui l'a amené là. C'est Dieu qui l'a amené là. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors que Abraham est là, lui, il ne comprend pas ce que Dieu lui demande, il ne comprend pas offrir son fils. On connaît un petit peu les circonstances dans lesquelles ce fils est venu, tout ce qui s'est passé avant, Ismaël, etc. Et alors que lui, il est là, il ne comprend pas, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, c'est que Dieu est déjà en train de préparer le moyen de sortir de la situation. Dieu est déjà en train de préparer la solution. Lui, ça lui échappe. Lui, il est focalisé sur le problème. Lui, il est focalisé sur ce que Dieu lui demande. Mais béni soit Dieu, et c'est ça qui est important, c'est que malgré le fait qu'il ne comprend pas, malgré le fait qu'il est là, peut-être certainement en train de cogiter, il obéit au Seigneur. Et là, moi, je me sens tout petit, je me dis, mais est-ce que j'aurais fait la même chose à sa place? La Bible dit qu'il est parti, il y est allé. Quand il arrive, ben, il élève un autel, il range le bois, il lit son fils Isaac, il le met sur l'autel et puis il est prêt à aller jusqu'au bout. L'Épître aux Hébreux dit qu'il pensait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Gloire à Dieu, il avait une foi extraordinaire, mais ce que je remarque, c'est qu'il obéit. Mais il y a quelque chose qui, à ce moment-là, lui, il ne voyait pas, c'est ce que Dieu était en train de faire, et c'est ce que Dieu était en train de préparer au travers de ce bélier. Alors que pendant ces 3 jours de marche, il montait, Dieu était déjà en train de préparer la solution. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir qu'Abraham, malgré le fait qu'il y avait bien des paramètres qui lui échappaient, a continué d'obéir. Et je voudrais peut-être retirer cet enseignement pour nous concernant ce texte-là, c'est que même si peut-être en ce moment, par rapport à ce que tu vis, tu ne comprends pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Dans le sens que, Seigneur, pourquoi je passe par là? Des fois, on peut même se poser la question, et c'est pas être anormal que ça l'a posé, est-ce que je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pour que ça me tombe dessus? Des situations qui sont là. Et des fois, on est là, on est certainement comme Abraham, on cogite, on ne comprend pas et on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce chemin-là? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre chemin plus simple, plus facile, moins pentu et qui ferait que quelque part, les choses se passeraient autrement? Et on est là. Mais ce que j'aime au travers de cette histoire, c'est que Abraham, lui, est resté dans l'obéissance, et pendant qu'il était dans l'obéissance, il vit ce miracle avec ce bélier qui était là, qui n'aurait jamais dû se trouver là. Dieu avait pourvu. J'aimerais nous encourager peut-être ce matin, alors que peut-être on est dans une situation qu'on ne comprend pas. Ou en tout cas, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on n'a pas toutes les explications, parce qu'Abraham, il ne les avait pas. Hein. On n'a pas toutes les explications. mais à continuer à obéir au Seigneur. Parce que pendant que tu obéis au Seigneur, pendant qu'on obéit à sa parole, lui, nous on ne le voit pas, mais il est en train de préparer la solution. Il est en train de préparer la sortie. Il est en train de préparer les choses. Dans les coulisses, alors que ça nous échappe complètement, Dieu est en train de faire ce qu'il a à faire. Il est en train de faire sa part. Il y a toujours dans ces moments-là ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas, ce que Dieu est en train de faire. Et j'aimerais que ça puisse nous encourager ce matin. Peut-être que tu te dises, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais je réalise qu'au-delà de ce que je vois, il y a aussi tout ce que je ne vois pas. Tout ce que tu es en train de préparer, tout ce que tu es en train de mettre en place. Et peut-être on risque d'être étonné. Alors quand ça va arriver, de grâce, venez rendre témoignage après. Venez rendre témoignage après. Dire, ouais, ce que Dieu a fait, je ne comprenais rien, je ne voyais pas pourquoi je passais par là, j'ai vécu ça. Et à un moment donné, mais je ne m'y attendais plus. Et puis, la porte s'est ouverte. Dieu est intervenu. Il y a quelque chose qui s'est mis en route. Alors que tout semblait bloqué, tout semblait fermé, Dieu est intervenu. Il y a ce que je vois, mais il y a ce que je ne vois pas. Et vous avez remarqué que Abraham ne s'y est pas trompé. Et c'est pour ça que j'ai lu ce passage jusqu'au verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Et je crois que c'est important de réaliser que quand on marche dans l'obéissance au Seigneur, même si je ne comprends pas, même s'il y a des choses qui m'échappent, Dieu est toujours celui qui pourvoit. Toujours. Ça n'a pas changé. Il est encore Yahvé Jiré aujourd'hui. Pour tous ceux et toutes celles qui, malgré les incompréhensions, malgré le fait que quelque part, ce qu'on voit est là et nous dit que ça ne passera pas, ça ne marchera pas, c'est négatif, c'est noir, il n'y a rien pour nous. Dieu est toujours celui qui pourvoit quand je marche dans l'obéissance. Il y a ce que je vois, mais il y a ce que je ne vois pas. Abraham, il n'était pas conscient du tout qu'alors que lui, il montait la montagne par un pan. De l'autre côté, il y avait ce bélier qui était en train de monter. Il n'aurait jamais dû se trouver là. Mais c'est Dieu qui l'a amené. Alléluia. Dieu fait des choses dans les coulisses qu'on n'imagine même pas. Et peut-être alors qu'en ce moment, tu es dans un passage difficile, peut-être tu n'imagines même pas ce que Dieu est en train de préparer. Ce que Dieu est en train de mettre en place pour toi. Alléluia. Et moi, ça me fait tellement de bien. Béni soit Dieu d'avoir un grand Dieu comme ça. Il y a ce que je vois, mais il y a aussi ce que je ne vois pas. Alléluia. Regardez, on va dans le Nouveau Testament, un deuxième texte où on voit cette vérité. Dans le livre des Actes, chapitre 18. Actes, chapitre 18. Peut-être ça va s'afficher derrière. Là, il s'agit de l'apôtre Paul. Et il nous est dit ceci. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision, écoutez bien, pendant la nuit, ne crains point. Donc, j'ouvre une petite parenthèse que je vais refermer. Moi, j'aime bien parce qu'il dit à Paul, ne crains point. Eh ben oui, parce que Paul, c'est un homme comme les autres, hein. Nous, des fois, on a l'impression que c'est des surhommes, qu'ils n'ont jamais peur, que tout va bien, madame la marquise, allez, hein, c'est super, ils ouvraient la bouche, les gens se convertissaient, ils priaient, les gens étaient guéris. Nous, on a l'impression que c'était facile. Mais Paul, il a eu besoin d'être encouragé. Hein. Il a eu besoin que Dieu lui dise ne crains point. Vous voyez ? Ça fait du bien. Ça ramène les choses à leur juste valeur. Des fois, il y a des hommes, on les a mis là-haut. Vous voyez ? Il y en a certains qui disent, ah ouais, mais lui, Paul, il a eu besoin de s'entendre dire ne crains pas. Alors Dieu lui dit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Amen. Alors ici, ce que je voudrais faire ressortir, c'est qu'on est quand même dans un contexte d'opposition. L'apôtre Paul, c'est pas simple. On a lu verset 6, si tu peux me le remettre. Hein, on a lu que, d'ailleurs, le mot il y est, hein, le mot opposition. Voyez, les Juifs faisaient alors de l'opposition. Il y a des injures qui tombaient sur lui. Je me dis que c'est jamais facile à vivre, ce genre de choses. Voyez, c'est un contexte d'opposition pour l'apôtre Paul. Voyez, je crois que c'est important de réaliser qu'à partir du moment où on veut servir Dieu, où on veut honorer Dieu, on connaîtra ce genre de choses, l'opposition. Quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la manière, l'apôtre Paul va le dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est clair, il ne faut pas que ça nous étonne. Des fois, on peut être surpris, dire, mais je ne comprends pas pourquoi, oh là là, mais alors, je veux essayer de plaire à Dieu, je veux essayer de faire les choses bien, et alors ça tombe de tous les côtés. Eh bien, c'est normal. C'est pas qu'on les cherche, mais c'est normal, c'est comme ça. À partir du moment où on veut faire les choses de manière droite, intègre, vraie, sans détour, à partir du moment où on veut mettre le mensonge de côté, on veut mettre les compromis de côté, ben ça va réagir. Ça va réagir. Ne serait-ce qu'au travail, je ne sais pas moi dans quel milieu professionnel vous êtes, mais ne serait-ce qu'au travail quand on décide de dire ben, « moi je mens pas ». Des fois, vous prenez des volets de bois vert. Hein. Vous voyez la secrétaire qui est là, et puis il y a le patron qui est là, et puis le téléphone sonne, et puis « dites que je ne suis pas là !» Et puis vous l'avez en face. Quoi. Et puis vous êtes là, vous voyez, et dire à son patron « mais ça, écoutez ça, moi... » C'est évident que ce n'est pas simple. Hein. Quand on veut être droit, quand on veut être intègre. Et c'est ce que vivait l'apôtre Paul. Il vivait de l'opposition. Et c'est dans ce contexte que Dieu va venir l'encourager en lui disant ne crains point. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il va quand même lui dire quelque chose. Tu peux me remettre le verset 9 et le verset 10. Voilà. Il va quand même lui dire quelque chose. Ne crains point, parle, ne te tais point. Et verset 10, il lui dit ceci. Et je voudrais qu'on retienne ça pour nous. Je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. De quoi il lui parle là? Il lui parle de quelque chose qui ne se voyait pas encore. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Moi je me dis, et ça j'en suis convaincu, c'est que dans cette ville, dans ces environs, Dieu a encore un peuple nombreux. Vous savez pourquoi j'en suis convaincu? Parce que sinon on ne serait plus là, le Seigneur serait revenu déjà. Le jour où il n'y aura plus personne, entre guillemets, à sauver, ben Jésus reviendra. Quand la dernière brebis sera rentrée dans la bergerie, Jésus reviendra. Voyez et là, c'est comme si Dieu était en train de dire à l'apôtre Paul, écoute, regarde, tu es dans un contexte d'opposition, et c'est ce que tu vois. D'ailleurs, on sent que l'apôtre Paul, ça l'a un peu... voyez. Il va dire, écoutez, je secoue la poussière, hein, je suis pur de votre sang, moi j'irai maintenant vers les païens. On sent que ça le... Vous voyez, il est, on le comprend, vous voyez. Et c'est comme si Dieu était en train de lui dire, écoute, il y a de l'opposition, mais il faut que tu réalises une chose, c'est qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Et dans cette ville-là, où tu connais l'opposition, il y a des choses, là, il y a des gens... là que je veux sauver, il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui ont un cœur ouvert, il y a déjà des gens que je vois comme mes enfants. Et ça, Paul ne le voyait pas. Ça, Paul n'en était pas conscient. Lui, ce qu'il voyait à ce moment-là, c'était l'opposition. Et c'est pour ça que Dieu vient et lui dit, ne crains pas, personne ne mettra la main sur toi, vas-y, continue, parce qu'il y a ce que tu vois, mais il y a tout ce que tu ne vois pas derrière. Vous voyez ? Et je voudrais que peut-être ça puisse nous encourager les uns les autres. Peut-être tu es dans un contexte d'opposition, que ce soit peut-être à la maison. Quand déjà on a un conjoint qui est incroyant, ce n'est pas toujours simple. Peut-être avec les enfants, peut-être au travail, peut-être ailleurs, vous voyez, un contexte d'opposition où ce n'est pas facile. Et c'est vrai que quand tel est le cas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça influe sur nous. Des fois, ça nous décourage, parce que surtout quand ça dure, que ça perdure, qu'on ne voit pas d'avancée, que peut-être même c'est tout le contraire qui se passe, on ne voit pas de progrès significatif, alors on se dit, mais à quoi ça sert? Et des fois, peut-être même on aurait tendance à s'énerver, à s'irriter. Mais peut-être le Seigneur veut t'encourager en te disant, oui, il y a ce que tu vois, mais il y a tout ce que tu ne vois pas. Et je voudrais que ça puisse nous encourager dans ton contexte d'opposition, dans ce que tu vis, peut-être au sein de ta famille, dans ton milieu professionnel, dire, bon Seigneur, ok, il y a ce que je vois et qui est là devant mes yeux et je ne peux pas le nier, mais il y a aussi tout ce que je ne vois pas. Alléluia. Et qui sait si, alors que peut-être ce que tu vois aujourd'hui te dit que ça ne marchera pas, qui sait si demain, Dieu ne va pas inverser la chose. Alléluia. Parce qu'on a un Dieu qui est grand. On a un Dieu qui est grand. Peut-être à ce moment-là, quand Paul a entendu cette parole, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais regarde, ils sont tous en train de me persécuter. Regarde, c'est compliqué, je reçois des injures, il y a ceci, il y a cela. Seigneur, mais j'ai un peuple nombreux, il y a ce que tu ne vois pas. Et vous savez, l'ennemi de notre âme, c'est quelque chose qui va, il va tout faire pour nous faire occulter ça. Et pour nous amener à nous focaliser uniquement sur le problème et sur la situation. Regarde, tu vois ça. Ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas, tu ferais mieux d'arrêter, laisse tomber. Il y a tout ce qu'on ne voit pas. Et ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul s'est laissé interpeller, parce qu'il y a ce petit verset 11 là qui est là, si tu peux me le remettre, qui pourrait passer inaperçu, mais qui est très important. Il y demeura 1 an et 6 mois. Ça veut dire qu'il a reçu le message 5 sur 5. Il n'a pas dit, ouais, moi je m'en vais. Hein. Je vais ailleurs. Hein. Non, il est resté un an et demi là. Un an et demi. Il a cru ce que Dieu lui disait. Vous voyez, au-delà de, il a cru au-delà de ce qu'il voyait. Et peut-être ce matin, je voudrais nous encourager, t'encourager, au-delà de ce que tu vois là, en ce moment. Et peut-être derrière cette expression « tu vois », tu mets ton contexte. Ben, réalise que derrière, il y a ce qui se passe dans les coulisses et que toi, tu ne vois pas. Le travail du Saint-Esprit. Moi, j'aime bien comparer le Saint-Esprit à un sous-marin. Le sous-marin, il est là, mais vous ne le voyez pas. Et tout d'un coup, ça sort. Oh, vous voyez ce... Et ça, c'est un peu l'image de l'action de Dieu. Vous voyez, on ne voit pas toujours ce qui se passe dans les cœurs, dans les situations. On est là, nous, on est pris, on est omnibulés et on est tous pareils. Parce qu'on voit, ça nous agace, ça nous énerve. Moi, je n'appelle pas ça, parce que je n'aime pas trop cette expression, une sainte colère. J'ai un peu de mal avec cette expression, moi. Sainte colère, ça me... Je sais pas. Il y a des colères... J'appellerais plutôt ça une colère légitime, vous voyez. Parce que, bon, il y a des choses... Des fois, on voudrait tellement que ça bouge et on est là, on boue. Voilà. Vous voyez, il y a une colère, mais c'est pas une colère dans le sens négatif du terme. C'est parce qu'on voudrait que ça change. Vous voyez, on voudrait que ça change. Ouais. Ouais. Peut-être c'est toi ce matin, ça. Je voudrais t'encourager. Il y a ce que tu vois, mais il y a tout ce que tu ne vois pas. Et surtout, peut-être qu'il y a le... permettez-moi cette image, mais il y a le sous-marin du Saint-Esprit qui est là-dessous et qui fait son œuvre et tu ne le vois pas. Et peut-être on va être étonné. On va être surpris. C'est là qu'on en arrive au troisième texte que j'aime beaucoup. Regardez dans l'Ecclésiaste, on connaît ce passage. J'aime beaucoup. Ecclésiaste 11, versets 4 à 6. Et ce verset, moi, il m'a interpellé, il m'a marqué. « Celui qui observe le vent ne sèmera point. » Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Le vent, ma foi, c'est qu'il est là, mais c'est pas assez. Vous voyez ? Ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et ce verset 6, on le connaît. Il dit ceci, dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce passage, parce qu'il est tellement encourageant, il est tellement bénissant. Là encore, si on résume un petit peu, il est question de quoi ? Il est question de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Et si tu peux me le remettre, ce verset 4 là, il est extrêmement important pour nous. Celui qui observe le vent ne sèmera point, celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. C'est-à-dire que si on se focalise uniquement sur ce qu'on voit, on est mort. On ne fait plus rien. Terminé. C'est ça que ça veut dire. Et peut-être ce matin, on est comme ça, on est focalisé sur certaines choses. Ce n'est pas le vent, c'est pas les nuages, mais c'est un problème, c'est une situation, c'est une personne, voyez, c'est un aléa, une circonstance. Et on est focalisé dessus. Et quand on est comme ça, ben c'est sûr qu'on ne fait plus rien, on n'avance plus, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste nous dit quoi ? Ben, si tu fais ça, tu es mort. Alors, comme tu ne sais quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le vent de la mer, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, t'arrête pas, sème ta semence, et parce qu'il y a ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Tu ne sais pas ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. On ne le sait pas, nous. On ne le sait pas. Des fois, il y a des gens, mais vous auriez parié, vous, sur leur conversion ? Ah, jamais. Hein. Et puis, il y en a d'autres, vous dites, ah, lui, ouais, il est sympa, lui. On va lui parler du Seigneur, et puis il ne se convertira jamais. On ne sait pas. Parce que nous, on ne connaît pas les cœurs, vous voyez ? On ne connaît pas les cœurs. C'est pour ça que j'aimerais peut-être nous encourager. Là, c'est dans un contexte particulier. Sème ta semence, mon frère, ma soeur. On a tous des gens, des bien-aimés, des conjoints, des enfants, des familles. On voudrait tellement qu'ils se tournent vers le Seigneur. On est là, Seigneur. Mais c'est vrai que des fois, si on commence à se focaliser sur certaines attitudes, sur certaines paroles, sur certains comportements, on se dit, eh bien lui, il n'est pas prêt, hein ? Et quand on regarde à ça, on est découragé, on est décontenancé, on est abattu. Voyez. Et c'est le sens de ce passage. Mais sème ta semence. T'arrête pas ce que tu vois. Il y a tout ce que tu vois pas. Il y a tout ce que tu vois pas. Un cœur, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe ce qui se passe dans un cœur. Et des fois, les choses peuvent changer dans un laps de temps très court. Mais ça, c'est le miracle de Dieu. Mais ça, nous, on ne le maîtrise pas. ne maîtrise pas. Je vais peut-être juste vous raconter un petit témoignage. Moi, ça m'a marqué. Ça a été un moment fort. Et ça aussi, je dis comme je disais vendredi soir, quand vous vivez ça, wouh ! Vous êtes seigneur encore. Sur Ajaccio, on a un dimanche matin, je vois une petite mamie qui arrive. Moi, je ne savais pas, mais j'ai su après. Petite mamie, là, comme ça, a vu de nez, allez, 85 ans. Première fois que je la vois. Et ma mamie, à la mamie. On commence à chanter comme on a fait ce matin. Premier chant. Et je vois la mamie qui commence à pleurer. Premier chant. Deuxième chant, debout, comme ça. Le culte fini, évidemment, la mamie vient. Il faut que je vous voie. Tout ça. Et là, quand je vais la voir quelques jours plus tard, tout ça, elle me raconte son histoire. Cette mamie, à ce moment-là, elle avait 87 ans. Et elle me raconte qu'elle est née dans un foyer chrétien, que ses parents étaient convertis. Elle me montre une photo de l'église de ses parents en 1948, noir et blanc. Elle me dit ça, c'est mes parents au milieu et toute l'église où ils sont. Elle a des cousins pasteurs. Et elle me dit, moi, je n'ai jamais donné mon cœur au Seigneur. Jamais. Et elle me dit, quand j'avais 17-18 ans, ma mère me disait toujours, il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus. Il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus. Mais ce qu'on fait tous avec nos enfants, avec nos familles, enfin, avec tous les gens qu'on aime. Et elle l'entendait, mais... Et elle a passé toute sa vie comme ça. Elle s'est mariée avec un incroyant, quelqu'un qui ne voulait certainement pas entendre parler des choses de Dieu, il ne fallait pas lui en parler. Après, c'est une Italienne, elle est venue en Corse, et elle a vécu toute sa vie là, et un jour son mari décède. Sauf que là, toute la vie est passée. Son mari avait à peu près le même âge qu'elle, 87 ans. Donc vous imaginez, 18 ans, 87 ans. 70 ans qui sont passés. Toute une vie. Et son mari décède, voilà, ça retourne comme ça. Et pas loin de chez elle, il y avait une chrétienne, une autre italienne. Et puis elle la connaissait comme ça de vue, et puis elle entend que son mari est décédé, et puis un jour elle la rencontre. Et l'autre dit, j'ai perdu mon mari, tout ça. Oui, j'ai entendu parler, tout ça. Machin. Et puis de fil en aiguille, tu sais, tu ne voudrais pas venir avec moi à l'église ? Mais cette sœur qui lui dit comme ça, elle ne savait pas son passé. Elle ne savait pas où elle allait. Tout ça, elle ne le connaissait pas. Elle lui dit, ah bon, tu vas dans une église ? Oui, je vais dans une église, tout ça. Écoute, dimanche, si tu veux venir avec moi, tu viens avec moi. Donc elle a dit, écoute, de toute façon, je suis toute seule maintenant, je viens avec toi. Et elle est venue. Et quand elle m'a expliqué après, elle me dit, quand je me suis assis et que j'ai entendu le début du culte, je me suis revu 70 ans en arrière. Et là, tout est revenu à la surface. Et là, j'ai compris que tout ce que j'avais entendu, vécu 70 ans en arrière, c'était la même chose là. Et c'est pour ça que là, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Et qu'au deuxième chant, elle s'est levée, elle s'est mise à louer Dieu. Parce que tout est revenu à la surface. Tout est revenu à la surface. Et cette dame, cette mamie, j'ai eu la joie de la baptiser. 88 ans. Pour la mettre dans le baptistère, je ne vous explique pas. Ça a été toute une affaire. Elle arrivait, c'était difficile de se courber, Donc j'ai, pour arriver à peu près, j'ai dû faire une grosse vague là avec ma main pour arriver à la recouvrir, voyez. 88 ans. Et elle a dit le jour de son baptême ceci. Alors je vous explique pas, il y avait des gens qui pleuraient partout. Enfin, tellement c'était émouvant. Elle a dit aujourd'hui, est en train de s'exaucer la prière de ma maman. 70 ans après. 70 ans après. Alléluia. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on voit pas. La maman, elle ne l'a pas vue. Elle est partie déjà avec le Seigneur depuis longtemps. Vous voyez, mais tout ça pour dire que quelque part, il y a tout ce qu'on voit, il y a tout ce qu'on ne voit pas, il y a ce qu'on maîtrise, il y a ce qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que le Seigneur nous dit par sa parole, jette la semence, vas-y, tu ne sais pas ce qui réussira. Te focalise pas sur ce que tu vois, sur ce que tu entends, peut-être sur aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être effectivement, la situation, elle est ce qu'elle est. Mais demain ou après-demain, ça sera peut-être autre chose. Et on n'en sait rien. Alors, te décourage pas. Commence pas à regarder le vent, les nuages et ceci et cela. Parce que ça c'est ce que l'ennemi de ton âme veut pour te décourager, pour t'abattre. Mais il y a ce que tu vois et il y a ce que tu vois pas. Et béni soit Dieu parce que cette semence qu'elle avait reçue 70 ans avant, plus personne ne la voyait, mais elle était bien là. Et 70 ans après, elle a porté son fruit. Et aujourd'hui, elle marche encore avec le Seigneur. Aujourd'hui, elle va sur ses 90 ans. Et puis elle est à l'église, elle me disait, là, avant que je parte, elle me disait, je viens, j'entends presque plus rien. J'entends presque plus rien. Alors la pauvre, elle essayait de se mettre à un endroit pas loin de... Mais elle me disait, c'est pas grave, je suis dans la présence du Seigneur, avec mes frères, avec mes sœurs. C'est beau. Waouh. Moi je dis, Seigneur, étonne-nous, vas-y. Étonne-nous encore. Alléluia. Pour ça que j'aimerais t'encourager, peut-être tu es abattu avec les tiens, avec tu dis, Seigneur, ça ne marchera pas. On n'en sait rien. Il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne vois pas. Alléluia. Je terminerai parce que je ne veux pas être long. Il y a un autre homme aussi qui a eu besoin d'être encouragé à ce niveau-là. Et ce n'est pas des moindres. C'est le prophète Élie. Le prophète Élie, vous savez qu'il est passé par un moment pénible et difficile. Alors vous appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui n'aiment pas le mot dépression. Bref, un roi 19, vous rappelez ce moment où il demande la mort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, c'est très intéressant. Il demande la mort et c'est un des seuls qui n'est pas mort. Quand même assez intéressant, parce que Élie, il a été enlevé. Il demande la mort et il ne passe pas par la mort. Voilà. Franchement, j'aimerais bien, moi. Vous préférez quoi, vous, la mort ou l'enlèvement de l'église? Moi, je préfère l'enlèvement, sans problème. Ouais. Et il demande de la mort, ça ne va pas du tout, tout ça. Et vous vous rappelez ce qu'il dit? Regardez ce qu'il dit au Seigneur. Je prends juste ce qui m'intéresse. 1 Roi 19, verset 10. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté moi seul. C'était vrai ça ou pas? Non. Apparemment, oui, c'était vrai. C'était ce que. Mais lui, c'était ce qu'il voyait, quoi. Hein? Mais vous savez que Dieu va lui dire, non, tu n'es pas seul. Il y en a 7000 qui sont comme toi, pas un, pas deux, pas trois, 7000. Moi, j'imagine la tête de Élie. 7000. Oh. Ouais, il y en a 7000. Élie, il a eu besoin de réaliser à un moment donné, dans son moment de découragement, qu'il y avait ce qu'il voyait et il y avait ce qu'il ne voyait pas. Vous voyez? Quelque part, c'était son impression. Et c'est souvent ça qui nous abat dans nos moments difficiles, c'est nos impressions. Oh, j'ai l'impression que... Bon, on est tous pareils. Tous pareils. J'ai l'impression que... Et vous pouvez y aller. Avec les impressions, il y en a un, l'ennemi de notre âme, lui, il sait alimenter ça. Vas-y, il charge la mule. Oui, t'as raison. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. J'ai l'impression que ça ne marchera pas. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. Que ça restera toujours comme ça. Et puis, vous avez l'ennemi, lui, il charge la mule. Oui, c'est vrai, c'est ça. Vas-y. Et puis il en rajoute toujours une couche. Et vas-y. Et puis il y a toujours un truc qui vient rajouter dessus. Voyez. Et on est là avec nos impressions. Et on est focalisé sur nos impressions. Et ça, c'était Élie à ce moment-là. Il est focalisé là-dessus. C'était pas l'unique raison de son désarroi, de son découragement. Il y avait Jézabel, il y avait l'idolâtrie du peuple, il y avait plein de choses. Mais un des aspects de son découragement, c'est ça, c'est que je suis resté moi seul. Mais Dieu, non, ça c'est ce que tu vois, c'est ce que tu crois, mais ça c'est tes impressions. Non, il y en a 7000 comme toi. Il y en a 7000 qui sont restés fidèles. Vous voyez? Et peut-être ce matin, on est peut-être un petit peu comme Élie dans d'autres circonstances, bien sûr, mais on est là et on a l'impression que. On a l'impression que, de toute façon, pour nous, ça ne marche pas. On croit à la prière. On en parlera mardi soir. Souvent, on est comme cet homme. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Quand cet homme dit ça, moi je ne crois pas qu'il ne croyait pas. Il croyait, mais il y avait tout le reste, quoi. Et des fois, on est un peu pareil, on est comme Élie, on est comme cet homme des évangiles, on est là, je crois, Seigneur, oui, mais bon, mais pour moi, ça ne marche pas. Alors, on a la foi pour les autres. Ah, j'ai prié pour toi. et prier pour toi parce que je crois que Dieu va te bénir, hein, je crois que Dieu va te guérir, je prie pour toi. Et des fois, on dit, ouais, super, et pour toi, tu. Ah non, mais moi, c'est pas pareil, moi, ça marche pas pour moi. C'est... Pour les autres, oui. On a la foi pour les autres, mais pour nous-mêmes, des fois, hein, on est tous pareils. Hein. Et souvent, c'est nos impressions qui prennent le dessus, voyez. Mais j'aimerais peut-être nous encourager un petit peu comme Élie, en tout cas comme Dieu le fait avec Élie, en te disant et en nous disant, il y a peut-être tes impressions qui sont là, ce qu'elles te disent, ce qu'elles veulent bien te montrer, mais il y a aussi tout ce que tu ne vois pas. Tout ce que tu ne vois pas. Alléluia. Et vous remarquerez que suite à ça, Élie va repartir, hein, il va continuer à servir Dieu. Dieu s'est servi de lui, tout n'était pas fini à ce moment-là. Hein, et peut-être ce matin, te dire, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il y a ce que, peut-être ce qui est aujourd'hui. Mais il y a tout ce que tu ne sais pas encore. Il y a tout ce qui te dépasse, tout ce qui nous dépasse. Et pour Élie, ça le dépassait vraiment. Hein. Peut-être Dieu lui aurait dit, écoute, il y en a encore un comme toi. Ah ouais, bon. Un, bon. Ah super, un avec ça, on va aller loin. Non, non, 7 000. 7 000. Des fois, ce qu'on ne voit pas, on est loin de s'imaginer. Hein. Loin de s'imaginer. Moi, quand Dieu a dit à Élie, il y en a 7 000 comme toi, j'aurais bien aimé voir sa tête. 7 000. Comme pour lui montrer, tu vois, il y a tellement de choses qui t'échappent. Il y a ce que tu vois, il y a ce que tu ne vois pas. Dans nos vies, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Je termine par le serviteur d'Élisée qui, à un moment donné, dans une situation difficile, les Syriens sont là. Ils sont en train de cerner la maison d'Élisée de toutes parts. Pourquoi? Parce que Élisée révélait les plans du roi de Syrie. Et le roi de Syrie, il était un peu agité parce qu'il disait, mais qui c'est qui va tout lui répéter? Et ses soldats sont venus dire, mais personne n'est allé tout lui répéter, mais c'est Élisée qui révèle partout où tu passes. Alors, il envoie ses troupes pour cerner la maison du prophète. Et là, son serviteur, appelé un matin, il se lève, il ouvre les volets. Il se lève de bon matin, il sortit. Et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, et tu vas me laisser le verset là, à mon Seigneur, comment ferons-nous? Et peut-être ce matin, c'est nous ça. Seigneur, comment on va faire? Comment je vais m'en sortir? Mais comment? Ça, c'est souvent nous. Ce serviteur, c'est souvent chacun d'entre nous. Par rapport aux situations qui sont les nôtres, on est là, quand on les regarde, parce que lui, il a ouvert la fenêtre le matin, il a vu tout ça. Comment on va faire? Et des fois, nous, quand on est là, on voit tout ce qu'il y a autour de nous, on dit, mais comment on va s'en sortir? Mais comment? On ne voit pas l'issue, quoi. Et puis là, regardez la suite. Versets 16 et 17. Il répondit, ne crains point. Ça, c'est l'homme de Dieu, Élisée, qui va dire, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ceux qui sont avec nous. Et là, c'est là que ça se passe. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Donc Élisée, il voyait ce qui ne se voyait pas. Vous voyez? Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et là, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et là, moi, j'imagine le serviteur. Ouh, super! Tout d'un coup, quand il a vu tout ça, ce qu'il ne voyait pas au premier abord, la présence de Dieu finalement qui était là, mais ça change tout, vous voyez? Et ma prière, c'est que ce matin, les uns et les autres, alors que peut-être on est exactement comme ce serviteur, dans notre situation, dans nos circonstances, on est là et. On dit, Seigneur, mais comment je vais m'en sortir? Mais comment c'est possible? Comment on va faire? Peut-être ce matin, Seigneur veut nous ouvrir les yeux comme ce serviteur. Pour qu'on réalise qu'il y a des choses qu'on voit effectivement, il y en a d'autres qu'on ne voit pas. Et qu'on réalise déjà au moins une chose, c'est que la présence de Dieu, on ne la voit pas toujours, mais elle est là. Et je voudrais que ce matin, ça puisse nous encourager comme ce serviteur qui a été encouragé là. Hein, que ce matin on puisse se dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux sur cette réalité. Peut-être ce matin on est en plein marasme, on est en plein là, quand on considère nos vies, nos impressions, tout ce qu'on voit, la situation, on est là et on se dit, mais comment, Seigneur, et Seigneur peut-être veut nous ouvrir les yeux ce matin pour nous dire, il y a ce que tu vois, mais il y a tout ce que tu ne vois pas derrière. Il y a tout ce que tu ne vois pas derrière. Et ça, je me dis, Seigneur, je te bénis d'avoir un Dieu aussi grand que toi. Parce que moi, je suis dépassé, je ne comprends pas, je ne sais pas. Mais toi, tu es tout puissant. Et dans les coulisses, tu es là. Alléluia. Dans les coulisses, tu es là. Et les choses se mettent en place. Moi, je ne les vois pas. Alors, comme dit ce chant, je voudrais qu'on le prenne. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Je ne sais pas si ce service.